Le magazine des sports du lundi avec à la une, figurez-vous, des mondiaux d'athlétisme au Japon. On n'imaginait pas commencer par ça, Lionel Sabot, mais il faut dire que pour une première médaille, l'équipe de France a fait fort. C'est une médaille d'or sur le 10 000 mètres.
Oui, Jimmy Gressier, champion du monde de la discipline. Le tricolore a réalisé une dernière ligne droite d'anthologie, un véritable sprint après 10 bornes de course quand même, pour s'imposer sur la piste de Tokyo devant l'Éthiopien Yomif Kelecha et le Suédois Andreas Algren. Une joie immense, forcément, pour Jimmy Gressier.
Aujourd'hui, je réalise mon rêve de gamin. J'ai commencé la course à pied pour ça. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi ma carrière. Un titre de champion du monde, on me l'enlèvera pas celui-là.
Jimmy Gressier qui apporte au contricolore sa toute première médaille d'or dans ces mondiaux japonais. Aujourd'hui, 15 Français à suivre et notamment la finale du concours du saut à la perche, messieurs, avec Renaud Lavillenie.
Alors, nous allons maintenant ouvrir une page rugby avec une triple actualité. D'abord, le rugby au féminin. L'équipe de France jouera bien les demi-finales de la Coupe du Monde.
Oui, les Françaises qui poursuivent l'aventure en Angleterre. Les Bleus ont battu l'Irlande sur le score de 18-3. La partie n'a pas été simple avec des conditions météorologiques bien compliquées. Mais le 15 de France Dames a su se surpasser la demi de mêlée. Pauline Bourdon-Sansu.
C'était vraiment compliqué, les conditions ne nous ont pas permis de faire du beau jeu. Mais voilà, je pense que l'équipe a montré vraiment du caractère. Défensivement, on n'a rien lâché. On a été quand même très indisciplinés. Mais voilà, je pense qu'on a su montrer notre caractère. Et je pense que dans des moments comme ça, c'était important de le faire. On savait que c'était un match qui était important. C'était un quart de finale. Donc voilà, on est resté solidaires et je suis très fier du groupe aujourd'hui.
Et les Françaises qui rejoignent donc le dernier carré, elles feront face le week-end prochain à l'Angleterre. L'autre demi-finale verra une confrontation entre la Nouvelle-Zélande et le Canada.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Ah oui, la suite de l'actualité du rugby, c'était ce week-end, la deuxième journée de Top 14, avec en clôture une belle affiche entre le Racing 92 et l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles.
Une belle affiche, et les Bordelais, champions d'Europe en titre, faut-il le rappeler, qui rentrent de ce déplacement en région parisienne avec une cuisante défaite dans leur bagage. Le Racing s'est en effet imposé 44-32 en inscrivant 5 essais, dont 4 dans les 18 premières minutes de jeu. Je vous rappelle les autres résultats de cette deuxième journée. Lyon qui s'est imposé 25-18 sur la pelouse de Montauban, le promu. L'Aviron Bayonnais qui a dominé Montpellier 26-23. La section paloise a écrasé le Stade Français 34-10. Et victoire du Stade Rochelais 34-16 sur Clermont. Le Stade Toulousain s'est imposé 31-13 sur Perpignan. Enfin, Toulon s'est imposé 16-12 sur le Castres Olympique.
Et ce n'est pas fini pour l'actualité du rugby, parce que je vous rappelle qu'on joue aussi samedi la quatrième journée du Rugby Championship. L'Afrique du Sud a infligé une claque historique à la Nouvelle-Zélande en s'imposant 43-10 sur la pelouse des Blacks. Et c'est la plus lourde défaite de l'histoire des Néo-Zélandais à domicile. Dans l'autre rencontre de ce championnat, l'Argentine est venue à bout de l'Australie 28-26. On passe au football, Lionel. Et d'abord la suite de la quatrième journée de Ligue 1.
Et le Paris Saint-Germain qui reste leader de la Ligue 1 après son succès sur Lens 2-0. Paris est la seule équipe à avoir remporté ses 4 premiers matchs de championnat. Ce matin toujours, Lyon, qui aurait pu rejoindre Paris en tête du classement général, a sombré sur la pelouse de Rennes. Très bien parti pour consolider leur place de co-leader au Roazhon Park grâce à un but de Tolisso avant la fin du premier quart d'heure. Les Lyonnais ont raté deux grosses occasions de faire le break avant de gâcher leur fin de match avec l'expulsion de Morton et une fin de match cauchemardesque lors de laquelle les Gones ont encaissé 3 buts en 15 minutes dont 2 dans les arrêts de jeu. Les autres résultats du jour, Lille a battu Toulouse de 2-1, le Paris FC s'est imposé 2-1 sur Brest, succès de Strasbourg sur le Havre 1-0, Metz et Angers ont fait match nul, 1 but partout. Rappelons les autres résultats du week-end avec Nice qui s'est imposé 1-0 sur Nantes, Monaco qui est allé l'emporter 2-1 sur la pelouse d'Auxerre et Marseille qui s'est facilement imposé 4-0 sur Lorient.
Et on joue aussi évidemment dans les autres championnats européens.
En Angleterre, tous les regards étaient tournés vers Manchester où City recevait United et comme souvent ces dernières saisons, ce sont les Citizens qui ont remporté ce grand derby anglais, victoire 3-0. À noter également la victoire de Liverpool 1-0 sur la pelouse de Burnley ou encore la victoire d'Arsenal 3-0 sur Nottingham Forest. En Espagne, on retiendra que les clubs madrilènes se sont imposés, le Real 2-1 sur la pelouse de la Real Sociedad, l'Atlético 2-0 face à Villarreal, puis ce matin le FC Barcelone s'est imposé 6-0 sur le FC Valence. En Allemagne, le Bayern Munich s'est imposé 5-0 sur Hambourg. Le Borussia Dortmund s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Heidenheim. Et puis on retiendra également la victoire 4-0 du Werder Bremen sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Enfin, en Italie, la Juve s'est imposée 4-3 sur l'Inter de Milan. Naples l'a emporté 3-1 sur la pelouse de la Fiorentina. Et le Milan AC s'est imposé 1-0 sur Bologne.
Allez, on passe maintenant à l'actualité du volleyball et l'équipe de France messieurs qui a lancé son championnat du monde.
Oui, et les Bleus d'Erwin Ngapet ont triomphé de la Corée du Sud pour leur premier match dans la poule C. Succès 3-7-0. Les Français qui retrouveront la Finlande puis l'Argentine dans ce groupe.
Les sports mécaniques, on va parler MotoGP et on a l'impression que les semaines se suivent et se ressemblent. Nouvelle victoire de Marc Marquez.
Oui, l'Espagnol sur Ducati semble se rapprocher inexorablement d'un nouveau sacre de champion du monde. Il a remporté sur le tracé de Misano sa 11e victoire de la saison. Il pourrait décrocher son 7e titre mondial dans 2 semaines au Japon. Côté français, Fabio Quartararo sur Yamaha a terminé 8e, Johan Zarco 16e après avoir chuté dans les premiers tours de course.
Le rallye est le vétéran maintenant, il faut l'appeler comme ça. Sébastien Ogier prend les commandes du championnat du monde.
Il est inoxydable, Sébastien Ogier. Il ne participe pourtant qu'à la moitié, qu'il ne participe pas à la totalité du calendrier WRC. Pourtant, il a remporté le rallye du Chili. Il s'est installé en tête au passage du championnat du monde. C'est sa 5e victoire de la saison au volant de sa Toyota. Un autre français, Adrien Formeau, a fini sur le podium à la 3e place.
Une bien triste fin de Tour d'Espagne en cyclisme avec un dénouement chaotique.
Ah oui, la dernière étape de la Vuelta qui a été stoppée par des manifestations pro-palestiniennes dans ce final chaotique. Le Danois Jonas Vingegaard a été sacré à l'issue d'une étape qui n'aura pas connu de vainqueur. Jonas Vingegaard a terminé en tête du général avec 1 minute 16 secondes d'avance sur le Portugais João Almeida. Le Britannique Tom Pidcock prend la 3e place à 3-11 de Vingegaard. Bruno Armirail termine premier français au général. Il est 19e. À 48 minutes et 30 secondes du vainqueur.
Et puis un mot de tennis pour parler de l'équipe de France qui s'est qualifiée pour le Final 8 de la Coupe Davis.
Ah, les Bleus affrontaient la Croatie, se sont imposés 3-0 grâce notamment aux 2 victoires de Corentin Moutet, ses 2 premières avec le maillot tricolore. Le Final 8 de la Coupe Davis se jouera en Italie, à Bologne, ce sera du 18 au 23 novembre. Une première qualification en phase finale depuis 2019 pour l'équipe de France.
Merci Lionel, c'est la fin de la première partie de ce magazine des sports du lundi. Dans un instant, l'autre partie consacrée au sport en Calédonie, notamment avec nos invités. Nous allons parler badminton, à tout de suite.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Solde chez Global Partense à Ducos. Du 1er au 28 septembre, profitez de moins 40% sur tous les pneus en stock. Oui, 40% sur les marques Apollo, Rodix et Royal Black. Dépêchez-vous, c'est le moment de changer vos pneus après-midi. Retrouvez-nous au 30 rue Lucien Hervé à Ducos ou appelez le 286 000. Global Partense, la qualité au meilleur prix. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Jusqu'au vendredi 19 septembre, gagnez un séjour au Sheraton Deva. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs, logé 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes, offert par le Sheraton Deva. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 19 septembre à 14h. 371 francs par SMS. Ressourcez-vous dans un cadre exceptionnel au Sheraton Deva. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres, bungalows et suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Profitez aussi de ses restaurants, du spa deep nature et du golf. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Dans un cadre idyllique à Lanzvata, le restaurant Le Fun vous invite à une expérience unique et conviviale. Découvrez le concept Steak Stone, viandes et poissons à cuire sur pierre chaude. Envie de fraîcheur? Craquez pour nos salades, suggestions de la semaine ou place à la carte. Le Fun, votre Steak Stone face à la mer, ouvert 7 jours sur 7. Info sur notre page Facebook Le Fun, réservation 28 67 08.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, une deuxième partie consacrée au sport en Nouvelle-Calédonie. Et avant de revenir sur les résultats du week-end, avec beaucoup de compétitions organisées ce week-end, on va parler badminton avec nos invités, Mickaël Juneski.
Exactement, dans les studios d'RRB, tout d'abord, Vincent Legras, DTN, adjoint à la Fédération française de badminton, actuellement visite sur le territoire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, l'une des raisons également de cette visite, le premier salarié de la Ligue de badminton qui va prendre ses fonctions, un cadre, Frédéric Château. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'avoir répondu présent. Et puis, pour vous accompagner, Laurent de Geoffroy, le trésorier de la Ligue calédonienne de badminton. Bonjour également.
Bonjour, Mickaël.
Alors voilà, on va revenir tout d'abord avec vous, Vincent Legras. Cette visite au pas de charge, hein, on en parlait avant l'émission, évidemment, hein, vous êtes là pour quelques jours, mais beaucoup de rendez-vous. Le sens principal, hein, évidemment, de ce déplacement ici en Nouvelle-Calédonie, c'est pas tous les jours que la Ligue de badminton peut recevoir évidemment un cadre de la Fédération française.
Oui, 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 bien sûr. Alors la Fédération accompagne les territoires ultramarins donc depuis de nombreuses années, et la Nouvelle-Calédonie donc est une ligue en voie de développement. Donc moi je suis ici surtout pour lancer l'emploi qui vient d'être créé. Donc les bénévoles ont passé le cap de développer un emploi sportif. Donc la fédération a accompagné la création de cet emploi, donc de manière technique, mais aussi financièrement. Donc la fédération donne 8000 euros par an à la Ligue pour soutenir cette professionnalisation. Donc je suis très heureux que Frédéric Château soit arrivé. Et puis donc le deuxième objet est surtout les visites institutionnelles aux côtés donc de Laurent et de Frédéric Château pour présenter un petit peu la discipline, envisager les perspectives et les axes de travail à déployer rapidement.
C'est important de faire ce déplacement voilà, à cette occasion, mais de manière générale, pour montrer le soutien de la Fédération française au sport, au badminton.
Oui, c'est ça. C'est que donc, la Fédération, bien sûr, on accompagne toujours à distance, mais on fait quand même donc, régulièrement, à la demande des ligues, des déplacements sur les territoires ultramarins. Et à l'inverse, nous invitons également et nous prenons en charge la venue des dirigeants, comme Laurent, et aussi à l'avenir de Frédéric Château sur des regroupements en hexagone, pour aussi leur permettre de ne pas se sentir seuls et de partager avec leurs homologues.
Alors, Frédéric Château, vous de votre côté, expliquez-nous d'abord qu'on apprenne à vous connaître. Hein, vous arrivez ici, vous allez commencer de voir les différents chantiers. D'où venez-vous? Quel est votre parcours un petit peu avant de prendre ce poste ici pour la Ligue de Nouvelle-Calédonie?
Alors, moi, j'ai commencé à entraîner en 1997, donc ça commence à faire un peu de temps déjà.
Effectivement.
Donc, mon parcours, donc, j'ai été coordonnateur au sein de diverses ligues. Et puis là, dernièrement, ma dernière mission, c'était au sein d'un comité départemental en Savoie, où j'ai exercé pendant 8 ans. Et à peu près les mêmes missions que je vais exercer aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie.
Comment vous avez pris la nouvelle quand voilà, vous avez découvert la Calédonie, cherchait quelqu'un pour voilà, continuer de développer la pratique ici? Ça s'est passé comment?
Alors ça s'est passé, c'est notamment la fédération via Vincent qui m'ont informé que effectivement il y avait un poste qui allait se créer en Nouvelle-Calédonie. Donc moi j'ai contacté la présidente Johanna et puis voilà, le contact s'est fait au fur et à mesure. Et ensuite j'ai postulé et me voici aujourd'hui.
Voilà, Johanna Cou, qu'on salue évidemment. Laurent de Geoffroy, un mot pour la Ligue calédonienne de badminton. Évidemment, tout d'abord la visite d'un DTN adjoint sur le territoire, ce n'est pas anodin. Et puis la mise en place voilà, d'un nouvel encadrant, c'est quoi votre commentaire à propos de cela?
C'est quelques années avec Johanna qu'on a mis en place et qu'on a mis vraiment toute notre énergie afin d'avoir notre premier salarié. Parce que c'est vrai que sans la professionnalisation de notre sport, on ne pouvait pas augmenter nos licenciés ou faire des autres actions comme des formations pour les clubs. Donc c'était un grand travail avec Johanna et moi et la Ligue pour permettre vraiment le premier salarié qui était attendu depuis très longtemps.
Alors, je me retourne vers vous, Vincent Legras. Depuis mardi dernier, vous êtes sur le territoire. Même question plus tard pour Frédéric Château. Déjà, le premier sentiment, cet aperçu que vous avez évoqué les rencontres évidemment avec le monde institutionnel, mais également avec les clubs, avec les joueurs, les pratiquants. C'est quoi ce qui vous vient à l'esprit?
Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a déjà un badminton qui il y a un bon engouement, puisque nous avons ici une hausse de licenciés importante. Donc, on a un bassin de pratiquants qui augmente et surtout un potentiel avec donc de nombreux endroits, ce qu'on appelle nous les zones blanches, mais avec des équipements. Donc, des perspectives intéressantes pour Frédéric d'aller aussi créer des clubs, mailler le territoire. On est plus sur une vision de développement de la masse. Et puis, j'ai vu aussi dans les clubs des encadrants des passionnés qui vont pouvoir aussi se former, développer de la formation continue avec Frédéric. Et on a en troisième lieu les interventions aussi en école. Donc beaucoup d'institutions sont ravies que le badminton se professionnalise pour mettre en place des dispositifs avec les collectivités, auprès des personnes un petit peu en situation défavorisée et aussi auprès des scolaires. Donc tous les feux sont au vert.
Frédéric Château, c'est le même constat, vous, depuis que vous préparez cette prise de fonction pour venir ici en Calédonie, c'est quoi qui vous vient à l'esprit ?
Alors je ne connaissais pas du tout la Nouvelle-Calédonie, donc même constat que Vincent, on sent de la passion chez les encadrants, chez les élus. Je rajouterais chez les joueurs également, quand moi j'ai pu visiter quelques clubs, que ce soit la semaine dernière ou cette semaine, on sent qu'il y a une envie à la fois chez les adultes et chez les jeunes de pratiquer cette discipline. Donc franchement, là je suis un peu surpris de l'engouement qui se trouve autour du badminton. Et puis je voulais rajouter par rapport notamment tout ce qui est, comme j'ai pu rencontrer moi des personnes sur le tournoi amical de Paita et discuter déjà avec les joueurs qui étaient présents, parce que là on a parlé beaucoup des compétiteurs, mais il y a aussi tous les joueurs loisirs entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, qui m'ont interpellé déjà pour me dire mais qu'est-ce que tu vas faire avec nous, pour nous, et donc là j'ai tenté d'apporter une première réponse en disant on peut intervenir ponctuellement dans les clubs pour mettre en place des animations pour vous, et là ils étaient déjà grand sourire, donc je pense que ce sera un des objectifs dans les prochains mois.
Un mot sur votre discipline, Vincent Legras, parce qu'elle souffre d'une certaine sous-exposition médiatique. On voit par exemple par rapport au padel qui a envahi les écrans, qui est un sport au moins aussi télégénique que le badminton, qui est peut-être même le badminton plus spectaculaire que le padel. Pourquoi on n'arrive pas à franchir, vous n'arrivez pas, vous, badminton, à franchir cette marche médiatique? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce sport, qui est très spectaculaire à voir et à pratiquer, puisse avoir un peu plus d'audience?
Alors... aujourd'hui,
vous allez me dire des sponsors, bien sûr, mais non, pas seulement.
Pas seulement. Aujourd'hui, on a une forte augmentation de licenciés donc, de la saison précédente, qui est souvent liée à l'année post-olympique. Mais là, on a déjà, les premières statistiques nous montrent encore une augmentation. Donc on va dire qu'on est maintenant sur une pente. Il nous manquait, je pense, aussi des résultats. Si vous avez suivi, on a accueilli les championnats du monde à Paris en août dernier, et on a eu une médaille de bronze en double mixte. Donc c'est la première médaille de mixte chez nous, donc ça nous donne, là on sent une visibilité médiatique aussi, avec trois joueurs en simple homme dans le top 15 mondial qui sont en train de grappiller chaque semaine des places. Donc pour moi, ça va déjà démarrer avec ces résultats-là.
Donc ce qui manque, pardon, il faut des résultats et puis des porteurs aussi de résultats. On voit par exemple dans le tennis de table, il y a les frères Lebrun qui, exactement, tout d'un coup ont percé finalement, ont passé le cap. C'est ça aussi qui manque aujourd'hui au badminton.
C'est ce qui manquait. Aujourd'hui, on a les frères Popov, comme les frères Lebrun, et puis Alex Lanier aussi.
Il faut les faire plus connaître alors.
Voilà, en tête de gondole.
Laurent de Geoffroy, on évoquait cet engouement au niveau national et ça a été dit au niveau calédonien. Un commentaire, puisque évidemment, pour la pratique du sport en général sur le territoire depuis l'année qu'on a connue en 2024, ce retour finalement massif des pratiquants en 2025 dans les salles, dans les clubs, c'est un plaisir, surtout quand il y a ces chantiers qui s'installent à l'horizon pour la Ligue de Nouvelle-Calédonie.
Ah mais tout à fait, et c'est vrai qu'on a... Cette année 2024-2025 a été une très grande année parce qu'on a passé quand même plus de 600 licenciés, c'est-à-dire 681 licenciés, on n'a jamais été aussi haut. Et donc cela nous permet peut-être de voir que le badminton, c'est un sport qui est très, très attractif pour les foyers. Et peut-être que ça va nous permettre encore d'augmenter nos licenciés, surtout en ce moment.
Alors, la suite de votre visite, Vincent Legras, jusqu'à la semaine prochaine, et puis également vos premiers pas sur les territoires, Frédéric Château, il y a notamment ce souci d'essayer d'aller partout sur le territoire. C'est une des subtilités de la Calédonie quand on connaît les territoires ultramarins. Pour vous, ça paraît être une des complications pour continuer de démocratiser la pratique partout?
Alors, oui, la semaine prochaine, on se rendra...
S'il faut, Laurent pourra vous aider pour l'emploi du temps. Je crois qu'il n'est plus allé.
Non, mais je suis là à 100% pour le badminton calédonien lors de mon séjour. Il n'y a pas d'histoire de planning, on s'adapte. Et je suis très heureux qu'on ait un déplacement en province nord la semaine prochaine, puisque ça fait partie pour moi des axes principaux de maillage du territoire. Donc, il y a 11 clubs aujourd'hui, 3 clubs en province nord, et il y a la place pour en avoir, je pense, plus... Provinces Nord. Donc ça va faire partie des missions de Frédéric aussi, de tisser le lien avec les futurs clubs.
Frédéric Château, vous commencez de prendre la température. Vous avez déjà les idées des axes de travail que vous allez mettre en place, ou c'est encore tout frais? Il faut vraiment prendre le temps de digérer toutes ces informations
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit avec Laurent, Johanna, Vincent, on va déterminer dans les prochains jours la feuille de route. Néanmoins, on a déjà les grands axes, et mes missions seront axées principalement vers le développement et la promotion de la discipline en Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire à la fois sur le volet sportif, accompagner les clubs, accompagner les encadrants, créer des clubs, et puis à la fois sur le volet social, c'est-à-dire accompagner aussi tous les dispositifs des collectivités territoriales, aller dans les écoles, dans les quartiers. Ça va être ça qu'il va falloir dégrossir sur les prochains jours là.
Eh bien, on va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt, en tout cas durant cette visite au pas de charge, comme on le disait. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Merci à vous.
Merci à vous.
Voilà, merci beaucoup, et on continuera évidemment de suivre l'actualité du badminton. On va maintenant, Mickaël, revenir sur le week-end sportif qui était chargé avec l'un des événements marquants, la 8e édition de l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie.
Et oui, le rendez-vous était donné dès vendredi soir au départ du Yala Range à Dimbéa, un événement qui a rassemblé plus de 600 participants sur les différents formats, 10, 20, 50 et 100 km sur la course Rennes l'UTNC. 100 km, c'est l'expérimenté Ludovic Lanceleur qui s'est imposé 14h20 minutes et 35 secondes de course, on l'écoute.
C'était plein de doutes en fait, parce que d'habitude l'UTNC, les ultra trails sont plutôt vers le mois de mai, juin, et là on prépare un ultra trail au mois de septembre, et voilà, on a toute la saison. Moi depuis janvier je suis au traîné, donc voilà, je commençais à être fatigué. On a déjà fait un trail des cagous sous la pluie, la préparation était compliquée et la course était compliquée aussi, parce que c'était vraiment un défi contre soi-même, parce que courir de nuit, et puis la météo, elle n'était pas avec nous, donc on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de brume en fait. Et le circuit en temps normal déjà, il est vraiment difficile, il y a beaucoup de dénivelé. Moi je partais sur 12 heures de course, et là j'en suis à 14. Mais le circuit, je ne m'attendais pas, il y avait des endroits comme le sentier Marco là, que je ne connaissais pas du tout. Waouh, il est incroyable.
Ludovic Lanceleur, grand vainqueur de l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie. Chez les dames, c'est Natalia Prado qui s'est imposée. Elle a terminé 9e au classement scratch.
Du plaisir de recourir dans nous.
La suite, on va parler triathlon, le triathlon du soleil, ça se passait ce dimanche à Nouméa, il s'agissait de la 35e édition de ce rendez-vous qui n'avait pas pu se tenir depuis 5 ans. Les fans du genre ont particulièrement apprécié, avec plusieurs parcours proposés sur le grand format: 1200 mètres de natation, 32 km de vélo et 8 km de course à pied sur la côte blanche. Mathieu Zalamacha et Nathalie Viratel ont tenu leur rang en s'imposant donc à la fois chez les messieurs et chez les dames. On écoute tout d'abord Mathieu Zalamacha et ensuite Nathalie Viratel.
Du plaisir de recourir dans Nouméa, avec vraiment beaucoup de public et beaucoup de participants, des jeunes, des moins jeunes, des légendes. Bon, il en manque quelques-uns à l'appel, mais voilà, c'est vraiment un grand plaisir de courir ici. Il fait beau, les conditions étaient parfaites.
Ça s'est super bien passé, j'étais bien à vélo, donc j'étais contente. Et après, en course à pied, bon, c'est moins mon point fort, du coup j'ai essayé de maintenir mon écart au maximum, quoi. Je me faisais reprendre au fur et à mesure, mais bon, ça allait, du coup j'avais beaucoup d'écart.
Voilà Mathieu Zalamacha qui l'a emporté avec un chrono d'1h40 et 30 secondes. Il a devancé Jonathan Berger et Gauthier Lezegretin. Chez les féminines, Nathalie Viratel qui a donc devancé Céline Herzel et Mélanie Allier.
Parlons hippisme maintenant. C'était ce week-end la dernière réunion de la saison. Elle se passait à l'hippodrome Bannu à la fois.
Exactement, dernière date de l'année ce samedi pour les turfistes et les passionnés de chevaux. Sur l'hippodrome Bannu, les émotions étaient encore au rendez-vous. En point d'orgue, le Grand Prix du gouvernement. Écoutez Nicolas Schneider, le président de la Fédération des courses hippiques de Nouvelle-Calédonie.
Je suis revenu parce que j'ai envie de passer du temps avec ma famille ici, de profiter avec mes amis et tout, donc pour reprendre des vacances. Et après j'avais vu qu'il y avait la course, donc je me suis dit pourquoi pas m'amuser comme avant quand j'étais petit. Et du coup c'est ce que j'ai fait. J'aimerais bien que le motocross calédonien il évolue dans le bon sens, donc ça serait bien si je donne une bonne image de ce sport pour les autres.
Voilà, dans une année de reprise et avec les difficultés pour trouver des financements qu'on connaît, le public est venu en nombre retrouver les hippodromes et vibrer pour les courses de chevaux tout au long de la saison.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, Michael, n'était pas le hippisme, mais le motocross.
Vous le rectifiez, oui.
Voilà.
Voilà, donc voilà, cette année de reprise hein, avec les difficultés pour trouver les financements, le public qui est bien sûr revenu sur les hippodromes de Nouvelle-Calédonie. On va pouvoir écouter Nicolas Schneider, si possible. Je me tourne vers la technique, un petit souci.
Allez, on va enchaîner, on va terminer.
Bon, on l'a entendu ce week-end en tout cas, voilà.
On va terminer, Mickaël, avec les autres résultats du week-end à retenir.
Oui, du football, les Tigasport et Gaïcha qui s'affronteront en finale de la Super League le 27 septembre prochain. Tiga qui a bataillé pour vaincre Saint-Louis dans les prolongations 3-2 ce week-end. Ça a été plus simple pour Gaïcha qui s'est imposé 3-0 face à Yengensport. En motocross, hein, Arnaud Colson que vous avez entendu par erreur, effectivement, il était au rendez-vous à la Tamoa ce week-end avec 52 pilotes sur la dernière manche du championnat de course sur prairie. Il s'est imposé, évidemment. On sait qu'il est devenu champion de France cette année de 250 cm3. Il vise prochainement un titre européen. C'est Matt Leroux qui, lui, a remporté le championnat élite. Et puis, du padel avec le tennis club du Mont-Cauvin qui organisait deux tournois féminins ce week-end. Christine Olwen-Michel et Flavia Manato ont remporté le P250. Sophia Iguer et Aurélie Olivier ont dominé le P25. Enfin, en tennis de table, le top 8 jeunes organisé par le comité provincial Sud. Victoire de Paul Gauthier devant Jonathan Lah et Julien Forster Di Fogliani chez les moins de 15 ans, chez les moins de 12 ans de Luca Forster Di Fogliani devant Malo Cannon et Alexandre Buy. Chez les féminines, c'est Ivanita Martin qui s'est imposée en moins de 12 ans et moins de 15 ans.
Et puis on va terminer, Mickaël, avec du cyclisme et hors du territoire. C'est le début du Tour de Tahiti.
Oui, les coureurs qui ont lancé les hostilités avec le contre-la-montre individuel de 10,8 km à Itiaa pour le début donc de ce Tour de Polynésie française. Parmi les équipes, on retrouve la sélection calédonienne. Elle est composée de Kirill et Kyrian Moutry, d'Hugo Pommelet, de Grégory Potier ou encore de Thomas Rizzolatti.
Merci Mickaël, midi 15, c'est la fin de ce magazine des sports. Merci de votre attention. Infomax se poursuit jusqu'à 13h avec Thierry. Je vous souhaite évidemment une très belle après-midi.